Bonjour tout le monde. Bonjour, bienvenue à tous et à toutes. Je m'appelle Anthony Risotto, je suis résident de médecine, en médecine de famille à l'hôpital St. Mary's ici à Montréal. Puis je suis aussi le coordinateur pour le symposium aujourd'hui. Donc je vous fais toute la bienvenue. Je fais une demande, s'il vous plaît, d'éteindre tous les cellulaires pour la présentation aujourd'hui. Puis, en même temps, vu qu'on est ici, je veux juste, j'espère que tout a bien passé ce matin. Je veux remercier tous les conférenciers et puis tous les médecins qui ont travaillé dans les ateliers pour leur support envers vous. Puis j'espère que ça a bien passé. Au moment, je vais juste commencer par introduire notre doyen. So, I will be introducing Vice Principal of Health Services and Dean Richard I. Levin, a world-renowned cardiovascular biologist and medical educator. Dr. Richard I. Levin is Vice Principal of Health Affairs and the 26th Dean of the Faculty of Medicine at McGill University. Formerly the Vice Dean for Education, Faculty, and Academic Affairs at New York University School of Medicine, he also practiced and taught medicine for 25 years at Bellevue Hospital in New York. Throughout his career, Dr. Levin has been honored with numerous distinguished awards, including the Heart of New York Mission Award in recognition of his 20-plus years of leadership at the American Heart Association, and most recently, the Dr. Johnston Award for his exemplary service in encouraging alumni support of McGill's medical endeavors. A graduate of Yale University, as well as the New York University School of Medicine, Dr. Levin completed his postdoctoral fellowship at Cornell University. His scientific interests include endothelial cell biology, the prevention of arthroembolic events, and the role of new information technologies in medical education. Dr. Levin has been awarded 4 patents relating to his work developing a device and system for coronary heart intervention and for studies on the promotion of wound healing. So I would encourage everyone to please join me in welcoming Dean Dr. Richard Levin.
Merci, merci. Bienvenue à vous tous. Welcome everyone. J'ai le grand plaisir de vous souhaiter la bienvenue au deuxième symposium étudiant sur la médecine familiale. Permettez-moi de commencer par exprimer ma profonde reconnaissance à tous ceux qui ont rendu cet événement possible. Le groupe d'intérêt étudiant en médecine familiale et tous ceux qui sont dans cette salle aujourd'hui. This major gathering obviously is the fruition of months of careful work and planning from a team representing a cross-section, frankly, of the next generation of health leaders in this province, in Canada. From Université de Montréal, Université de Sherbrooke, Université Laval, Ottawa, as well as McGill, kudos to all of the planners. It is a great conference. Congratulations. Your commitment, in fact, has helped changing perceptions about family medicine everywhere. Je désire souligner le précieux soutien des organismes partenaires du domaine de la médecine familiale, y compris celui du gouvernement du Québec, des personnes en charge des ateliers, des conférenciers invités et des nombreux commanditaires réunis aujourd'hui afin d'offrir une vitrine sur la médecine familiale. Hier, dans cette même salle, nous avons célébré une nouvelle génération d'étudiants qui recevaient leur blouse blanche pour la première fois. Chaque année, lorsque je vois leur enthousiasme à l'égard de la médecine et quand plus grand nombre d'entre eux à McGill choisissent la médecine familiale comme spécialité, mon propre enthousiasme pour cette merveilleuse profession s'en trouvait décuplé. Now, think for a moment, if you would, with me about the past century of medicine. Life expectancy doubled To our ancestors, the medical feats that we accomplish today would have seemed impossible, perhaps miraculous. And in this century, many experts are now predicting that life expectancy will double again. What a challenge. To live that well, to live that long. It's a remarkable thing to contemplate. And you, the students in this room, will be responsible for that doubling. We've got to think seriously about those things that might seem like miracles, but will, in your lifetimes, become commonplace. Today you can buy your entire genome sequence on an 8 gigabyte USB drive. Patients are beginning to walk into offices with their genomes on such a drive. Imagine the role of the family doctor when it becomes part of your daily practice to have access to that knowledge, to see patients who can be examined down to their molecular genomic levels. Extraordinary promise unleashed by the Human Genome Project will empower the family doctor like never before. It will be a remarkable time. La médecine familiale est une spécialisation, l'une des plus difficiles de la médecine parce qu'elle nécessite des connaissances approfondies dans de nombreux domaines. La grande majorité des cas de médecine ne nécessiteront jamais les services d'un spécialiste. C'est un médecin de famille qui prendra l'entière responsabilité du diagnostic, du prognostic et du traitement. En plus d'être un rare privilège, être médecin de famille est très valorisant. Ceux d'entre vous qui décideront d'entreprendre cette grande aventure seront au cœur même d'un réseau de soins de santé modernes. Dr. Paul Bonesteel, selected as one of the 2009 Canadian Family Physicians of the Year, described his profession with these words. If you're bored by seeing routine, uninteresting, unchallenging cases, then you're not practicing family medicine. And he was, of course, absolutely right. Those of you who choose family medicine will be opting for diversity, intrigue, challenge, in short, a life of adventure, which may take you far and wide. We hope, of course, you all come back to Quebec. It is my great pleasure now to introduce to you a man who knows family medicine very well. His long career has most recently brought him to another one of the most interesting and arguably one of the most challenging of all jobs, ministre de la Santé et des Services Sociaux, ce qui n'est pas une mince affaire. L'honorable Yves Bolduc a lui-même poursuivi la carrière qui intéresse bon nombre d'entre vous. Après avoir terminé ses études à l'Université Laval, le docteur Bolduc a été médecin de famille à Rouyn-Noranda de 82 à 89. Il a pratiqué à diverses autres villes, notamment à Virginia Town en Ontario et dans sa ville natale, Alma, au Québec. Il a également été assistant professeur en médecine familiale à l'Université de Sherbrooke, ainsi que professeur d'enseignement clinique à l'unité de médecine familiale du C3S de Lac Saint-Jean-Est. Le docteur Bolduc a amélioré l'accès aux soins de santé partout où il a travaillé. C'est sa volonté d'améliorer sans cesse le sort d'autrui qui l'a incité à faire le saut en politique. D'abord nommé au cabinet du gouvernement du Québec en 2008, l'honorable ministre Bolduc est maintenant à la barre de la santé et des services sociaux. It's a sign of his deep commitment to family medicine that he joins us here today, and we couldn't be more delighted to hear his unique point of view on a subject of such critical importance to Quebec and indeed the world. Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, please welcome, veuillez accueillir l'honorable Yves Bolduc.
Merci beaucoup, Richard. Ça prouve que le fait que tu sois ici, ça prouve qu'on est capable de recruter des gens de grande qualité de l'extérieur du Québec. Et nous sommes très fiers de t'avoir ici au Québec. Tu fais un travail strictement extraordinaire. J'aimerais également remercier Dr. Jiménez d'être ici. On s'est rencontrés hier. Dr. Jiménez va vous faire une conférence tantôt. C'est un modèle, non seulement comme médecin de famille, mais également comme citoyenne par son implication partout au Québec dans les causes humanitaires. Elle a eu l'occasion de recevoir de nombreux prix, mais je peux vous dire qu'au-delà des prix, c'est une personne strictement extraordinaire. Docteur Jiménez, je vais rester pour votre conférence parce que vous êtes toujours très intéressant. Tantôt, on a parlé de mes passages, mais Richard a oublié de dire certaines choses, dont entre autres, j'ai été un étudiant ici à McGill, au St. Mary's. D'ailleurs, je dis toujours aux gens, je suis toujours fier quand je viens ici à McGill de dire, quand vous allez au St. Mary's, près des toilettes, du conseil d'administration, ma photo est encore là. Et également, j'ai été étudiant alors que j'ai fait des stages ici au Royal Victoria, St. Mary's et également au Children. Et vous savez, comme je suis fier à toutes les fois de collaborer à des activités de McGill, surtout qu'on a tellement un beau projet avec le nouveau centre Glenn qui va être quelque chose de strictement magnifique avec un des plus beaux buildings à Montréal, au Canada et un des plus beaux hôpitaux au monde. Je voudrais également noter la présence des gens avec qui j'ai travaillé dans le passé. Mon curriculum vitae démontre que j'ai fait quelques activités, dont entre autres, on a participé à l'ouverture de l'unité de médecine de Val-d'Or avec Dr. Trendley qui est ici, Dr. Hélène Rousseau. Puis également, j'ai été directeur des services professionnels à Gatineau, puis j'ai eu l'occasion de collaborer avec Dr. Suzanne Bouchard. Donc, mon expérience en médecine de famille, et pas seulement comme médecin de famille, mais d'avoir travaillé avec des gens extraordinaires qui font la promotion de la médecine de famille. Et là, je ne viens pas vous parler comme ministre, mais peut-être comme un médecin de famille, puis témoigner de l'importance de la médecine de famille. Je souligne également la présence de Jacques Ricard, qui est notre responsable première ligne au ministère, avec qui on travaille très bien, et qui en fait la promotion. Puis tantôt, il me disait, Jacques, comment c'est merveilleux le nombre de personnes qui est ici, et surtout l'attrait actuellement qu'on a au Québec pour la médecine de famille. Félicitations aux organisateurs de la Faculté de médecine de McGill et aux partenaires. Et j'aimerais commencer par vous dire c'est quoi le réseau de la santé. C'est 300 000 travailleurs, dont 8 000 médecins de famille qui collaborent. Pourquoi c'est important la médecine de famille? Parce que dans tous les systèmes de santé qui réussissent, le premier élément important sont les soins de première ligne dans lesquels le médecin de famille joue un rôle majeur. Ça prend également des spécialistes, une bonne structure de spécialistes, mais toutes les études démontrent que le premier élément, c'est une première ligne forte, dans laquelle vous allez jouer un rôle extrêmement important. Ici au Québec, on en a 8 000 médecins de famille, et ça va aller en croissant. Le temps de la pénurie est derrière nous autres. À chaque année, on sort plus de médecins qu'il y en a qui partent, et je peux vous prédire que d'ici 3 à 5 ans, on va être en meilleure position. Qu'est-ce que ça prend pour avoir un bon système de santé? Ça prend des bonnes personnes. Ça prend des gens qui sont dédiés, qui viennent pratiquer avec un objectif, améliorer la situation de nos patients, la situation des citoyens. Qu'est-ce que ça prend pour avoir un bon système de santé? Ça prend des professionnels, dont vous, qui allez venir travailler en équipe. Un des grands éléments dont je fais la promotion partout, c'est fini la pratique en solo, fini la pratique individuelle. Maintenant, on veut des professionnels qui vont travailler en équipe de médecins, pour pouvoir partager les avantages, mais également pour pouvoir partager les inconvénients, la garde. Je vous rappelle, je tiens à vous le rappeler, que si vous devenez médecin de famille, accepter les conditions d'un médecin de famille, ça implique qu'à chacun de notre tour, on doit être de garde. Ça implique que nos urgences doivent être couvertes 24 heures par jour. Ça implique qu'on travaille avec d'autres professionnels. Maintenant, la pratique médicale, ça se fait en interdisciplinarité. Ça se fait avec des infirmières, avec des pharmaciens. Ça se fait également avec des nutritionnistes, des inhalothérapeutes. On a toujours tendance à penser aux infirmières pour pharmaciens, mais c'est une trentaine de professions avec lesquelles on va collaborer, dans lesquelles on a chacun un champ de compétences. Et le plus grand objectif que nous avons, c'est de partager avec nous, avec eux autres nos compétences pour qu'à la fin, comme équipe, on offre les meilleurs soins à nos personnes. Pour avoir un bon système de santé, ça prend les meilleures technologies. Ici au Québec, moi je vous garantis, on se compare avec n'importe où ailleurs dans le monde. L'exemple, en radiologie actuellement, vous avez la radiologie numérique qui sont dans tous les établissements du Québec. Il n'y a aucun établissement du Québec actuellement qui n'a pas les PACS pour se transférer les images. Vous avez les meilleurs laboratoires. Ça nous prend également les meilleures technologies de l'information, l'informatique. Ce que l'on veut, c'est vous doter des meilleurs outils, le dossier clinique dans les hôpitaux, le dossier Santé Québec, et ce dont je fais beaucoup la promotion, qui cette année va être un thème majeur pour moi, toutes les cliniques au Québec devraient être informatisées et on devrait travailler numérique. Ça va être beaucoup plus efficace. On va partager beaucoup plus d'informations et on veut vous laisser avoir toute l'information nécessaire pour bien soigner vos patients. Pourquoi? Parce qu'un médecin, ce que ça veut, ça ne veut pas avoir de problème administratif, ça ne veut pas avoir de problème technologique, ça veut soigner des gens et prendre en charge une population. La médecine de famille a actuellement un regain de popularité. Pendant quelques années, l'attraction avait diminué, mais je peux vous dire, depuis 2-3 ans, on note une attractivité extrêmement marquée en médecine de famille. Pourquoi? Parce que nos conditions de travail s'améliorent, mais également le concept de travailler en équipe nous permet de partager les inconvénients. Et là-dessus, je vous amènerai sur un sujet qui me tient à cœur, c'est la conciliation travail, famille et vie personnelle. Et je vous encourage fortement à avoir cet équilibre. Ceux qui délaissent leur famille, qui délaissent leur vie personnelle pour ne se consacrer qu'à leur travail, à court terme, d'après moi, ils ont plus de difficultés. Ils vont avoir plus de la difficulté à s'adapter aux pratiques. Et il n'y a aucune raison actuellement pour que quelqu'un laisse sa santé et sa vie familiale parce qu'il veut faire une bonne pratique médicale. Pourquoi? Parce que vous pouvez le faire en équipe. Et le médecin super-héros, c'est disparu. Ce qu'il faut maintenant, c'est travailler ensemble et que chacun apporte une contribution. Actuellement, au Québec, sur les 8 millions de population, on en a 4,5 millions qui sont inscrits à des médecins de famille. Au cours des 3 à 5 prochaines années, le nombre va être encore plus important. Notre objectif, c'est que chaque citoyen du Québec qui le veut puisse avoir accès à un médecin de famille, puisse avoir accès à un médecin de famille avec un rendez-vous dans un délai rapide et puisse avoir accès également à du sans-rendez-vous lorsque son médecin de famille n'est pas disponible. Et ça, on peut le faire si on travaille avec un groupe de médecine de famille en clinique réseau et que nous continuons à travailler en équipe. Au Québec, on a déjà 215 groupes de médecine de famille. Au cours des 3 prochaines années, on devrait en avoir 300. On s'attend à ce que plus que 75% de la population du Québec puisse être suivie par un médecin de famille en groupe de médecine de famille. Pourquoi j'insiste sur les groupes de médecine de famille? Parce que vous allez travailler avec d'autres professionnels, avec des infirmières, avec des nutritionnistes. Et la pratique médicale, maintenant, ne se fait plus seulement comme médecin, mais il faut le faire en équipe. L'exemple le plus facile, c'est le diabète. On a un travail à faire pour nos diabétiques, mais pour ce qui s'agit de l'enseignement, de la formation, ce qui prend des heures, ça prend des infirmières, ça nous prend des nutritionnistes. Et actuellement, on a créé au Québec, de ce côté-ci, une nouvelle profession qui sont les infirmières praticiennes spécialisées. Il y en avait dans les autres provinces, il y en avait très peu au Québec, mais on s'attend qu'au cours des prochaines années, on va collaborer avec les infirmières praticiennes spécialisées pour justement pouvoir offrir encore des meilleurs soins. La clinique réseau, c'est la clinique qui nous permet d'offrir du sans-rendez-vous et avoir un meilleur accès pour désengorger nos urgences. Également, j'insisterai sur les unités de médecine de famille. Une particularité au Québec, nos unités de médecine de famille sont réparties sur tout le territoire du Québec, ce qui fait que plus de 50% des résidents qui sortent de nos unités de médecine de famille vont demeurer dans l'endroit où ils ont été formés. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes la seule province, puis j'ai rencontré encore la semaine dernière mes homologues des autres provinces, ministres de la Santé, nous sommes la seule province à réussir à avoir une répartition équitable des médecins de famille sur tout le territoire. et la majorité le font sur une base volontaire. Ils travaillent à quelque part pendant 2 ans et par la suite préfèrent et choisissent de demeurer à cet endroit-là. Et je peux vous dire qu'actuellement, nos plans d'effectifs sont en train de se combler, ce qui est une bonne nouvelle pour chacun d'entre vous, parce que lorsque l'équipe est suffisante en nombre, ça nous permet de répartir les inconvénients. Nous avons une augmentation du nombre de résidents. Nous avons passé en médecine au niveau des étudiants de 400 à 800 d'une période de 7 ans, ce qui pour moi est un signe de succès pour l'avenir. Également, il faut dire que nos facultés de médecine actuellement ont pris un virage où ils font la promotion de la médecine de famille. Un exemple, c'est le symposium que vous avez aujourd'hui, qui n'aurait pas été pensable il y a quelques années, alors qu'on fait un symposium pour en faire la promotion au niveau de l'activité de médecin de famille. Ce qu'on veut vous prouver, et c'est vrai, je peux vous le témoigner comme médecin de famille, on a une pratique extrêmement valorisante et surtout diversifiée. Que vous ayez n'importe quel goût, que vous ayez l'idée de faire n'importe quel type de pratique, en médecine de famille, on va être capable de répondre à vos besoins. Si vous aimez le haut stress, l'urgence. Si vous aimez la continuité, l'approche humaine du bureau. Si vous aimez faire des accouchements, on fait de l'obstétrique. Un des gros avantages de la médecine de famille, puis quand je faisais du recrutement avec mes hôpitaux où je travaillais, j'ai toujours aux gens la plus grande diversité de pratiques, vous allez l'avoir en médecine de famille. Et également en médecine de famille, vous allez travailler en équipe. L'autre élément qui est caractéristique au Québec, et je tiens à féliciter les organisateurs, c'est les groupes d'intérêt à la médecine de famille. Actuellement, on veut tellement faire la promotion de la médecine de famille, on veut vous prouver que c'est une pratique très intéressante. Et pour cela, on prend des gens, des étudiants, qui en font la promotion. Et ces groupes d'intérêt vont faire en sorte que nous allons avoir au Québec, à la sortie, 50% de médecins de famille, 50% de spécialistes. Juste pour vous dire, dans d'autres pays, entre autres, comme si vous regardez aux États-Unis, c'est à peu près 18 à 20% qui vont finir en médecine de famille. Mais je vous le rappelle, un système de santé fort, c'est d'abord un système de santé qui est basé sur la première ligne, en complémentarité avec des services de deuxième ligne. Un médecin de famille, ça fait de la prise en charge, ça fait du suivi, mais je peux vous dire que c'est une pratique extrêmement intéressante. Le contact humain avec nos patients, le fait de pouvoir les suivre sur plusieurs années, de partager avec eux leur vie, leurs émotions, leurs déceptions, leurs mauvaises nouvelles, et qu'on soit une personne support, c'est ce que j'ai trouvé le plus valorisant dans ma pratique médicale. La technologie, tous les outils informatiques ne sont que des moyens. Et après plusieurs années, j'ai quand même 26 ans de pratique en arrière de moi, quand on fait la rétrospective, c'est les contacts humains avec les patients, avec nos collègues, avec toutes les autres personnes avec qui nous avons travaillé. Pourquoi la médecine de famille? Plaisir de traiter les gens, plaisir de côtoyer d'autres personnes dans nos milieux de travail, mais surtout l'aspect humain. En médecine de famille, vous allez développer des relations interpersonnelles privilégiées. J'ai été médecin de famille pendant 26 ans et j'ai trouvé ma pratique extrêmement valorisante. Depuis 2 ans, la vie m'a apporté à faire une pause. J'ai arrêté ma pratique et je peux vous dire qu'une des choses que je regrette le plus, c'est de ne pas être encore capable de voir des patients sur une base régulière et d'avoir réussi à garder ce contact. Mais pour vous prouver comment c'est important pour moi la médecine de famille, j'ai accepté un nouveau défi pour faire une contribution à la société, qui est de collaborer à améliorer le système de santé. Mais à toutes les fois qu'on me pose la question « Qu'est-ce que tu vas faire après? » je vais retourner en pratique de médecine de famille parce que pour moi, c'est la plus belle profession au monde. Et je vous souhaite un jour d'avoir à faire le même témoignage que moi aujourd'hui, d'avoir un groupe d'étudiants aussi intéressant que vous autres. Là-dessus, je vous remercie.
Donc, merci, Ministre Dr. Yves Bolduc. On behalf of everyone here, I'd like to extend my thanks for your presence and for your wonderful speech. At the moment, Dr. Yves Bolduc will be taking a few questions. We ask that in the spirit of this being a family medicine student symposium, that all the questions come from students here. Donc, dans l'esprit de l'événement ici, que c'est un symposium pour les étudiants, je demande que toutes les questions dirigées vers le ministre aujourd'hui viennent des étudiants. Merci.
C'est la partie la plus plaisante, les questions.
Gênez-vous pas de diriger vers un microphone.
Moi, ça, c'est des questions difficiles. Puis je vais laisser les facultés répondre à ça. Je pense que c'est un sujet qui revient souvent, c'est-à-dire la médecine de famille étant une pratique extrêmement variée, on veut que les gens aient de plus en plus de connaissances, et il y a de plus en plus de connaissances et d'habiletés à apprendre. Et puis ça, je vais laisser les facultés de médecine décider. Pour moi, ce qui est important, c'est que nos médecins soient compétents et surtout développent les habiletés personnelles pour être un bon médecin. J'insiste là-dessus parce que quand on est étudiant, on a l'impression que les connaissances, c'est ce qu'il y a de plus important. La réponse, c'est non. Les connaissances, vous allez les apprendre en pratiquant. Si vous pratiquez de l'obstétrique, vous allez devenir bon en obstétrique. Si vous pratiquez de l'urgence, vous allez devenir bon en urgence. Si vous pratiquez dans un cabinet privé, vous allez devenir bon dans ce que vous allez voir en cabinet privé. Mais quelle que soit la place que vous pratiquez, c'est vos habiletés interpersonnelles d'empathie, de communication et de partage des émotions avec les gens que vous occupez qui est le plus important. Et je vais rajouter quelque chose. C'est également vos habiletés de travailler avec d'autres. Ça, c'est un élément important. Et la meilleure équipe va toujours faire mieux que la personne qui sait tout et qui fait tout seul. C'est le concept qu'il faut avoir de nos jours. Donc, on va laisser aux facultés l'occasion de décider qu'est-ce qui est mieux pour nos jeunes. Une autre chose que je peux vous assurer, moi, je me promène pas mal au Québec. J'ai été en contact avec mes partenaires du Canada. Les professionnels qui sont formés au Québec, toutes professions confondues, y compris la médecine, sont considérées comme les meilleurs au monde. La preuve, on peut aller pratiquer n'importe où avec notre diplôme.
Aucune autre question?
Merci beaucoup.
Merci. So, I have the delightful pleasure of introducing the next speaker, Dr. Miriam Boila, McGill's interim chair of the Department of Family Medicine. Over the past 2 years, I have had the pleasure and honor of working with Dr. Miriam Boila, first as a member of the Family Medicine Task Force, and most recently as a resident at St. Mary's Hospital, where she supervises residents and students in clinic. From this, I can attest to her being a proficient family physician, a devoted teacher of family medicine, and a leader in the department for over 25 years. And yes, I can say this without bias, even though she has given me evaluations. Why? Because actions speak louder than words. Dr. Boila held the position of director of McGill's Family Medicine Residency Program for 10 years. She chaired the Family Medicine Task Force, a committee endorsed by Dean Levine, to determine and implement changes in the faculty to position family medicine at the forefront of medicine here at McGill. And as Assistant Dean of Faculty Development, she has supported the physician's commitment to lifelong learning by aiding in the development of the new Master of Sciences degree in Experimental Medicine for family physicians, the first program of its kind in Canada. As a family physician, I thank you for the changes you have brought to the department, to the changes you brought to family medicine here at McGill and in the province and hopefully around the world. I would like everyone to please extend a warm welcome to Dr. Miriam Boila.
Merci, Anthony. Merci encore au comité organisateur de cette magnifique journée. C'est vraiment un privilège pour moi de dire quelques mots au nom du département de médecine de famille de l'Université McGill. Nous sommes fiers de participer à la formation des futurs médecins de famille. Nous avons actuellement à McGill 6 unités d'enseignement de médecine de famille, dont une à Gatineau, une à Val-d'Or, une à Châteauguay et 3 à Montréal, et 17 sites de formation en région, incluant le Nunavik, la baie James, Abitibi, l'Outaouais, la Montérégie. Dr. Jimenez, our keynote speaker, has practiced as a family physician in many regions of Quebec and beyond. She's practiced in Saint-Ours, in Montreal, in Nunavik, and even more recently in Haiti, where she cared for victims of the recent earthquake. Dr. Jimenez est directrice de l'unité de médecine familiale du CSSS de la Montagne, dans le quartier Côte-des-Neiges, un quartier très multiethnique de Montréal. Une de ses grandes passions est la pratique de l'obstétrique en médecine familiale. Elle a fondé la Maison Bleue, dont elle va vous parler un petit peu, qui est un lieu où médecins et sages-femmes travaillent ensemble, suivent et accouchent les femmes enceintes de Côte-des-Neiges qui sont vraiment en situation de vulnérabilité durant leur grossesse. Dr. Jimenez is a dear colleague and a friend. She's truly a role model. She's a family doctor who provides comprehensive care. She understands and she advocates for her community. She cares for vulnerable and marginalized populations. Peut-être que vous pensez que Dr. Jimenez, avec tout ce qu'elle a accompli en médecine familiale, n'a de temps que pour la médecine. Eh bien, vous vous trompez. C'est une mère de 7 enfants. Une grand-mère de 5 petits-enfants maintenant. I don't know if I need to translate that piece. She's the mother of 7 children and grandmother of 5 grandchildren. She's also the author of 2 remarkable novels entitled, one, Le Seigneur des Oreilles, and the second, Le Silence de Mozart, donc auteur de 2 romans exceptionnels. Vania, j'ai hâte de t'entendre. Je suis certaine que tu m'aideras à réfléchir, que tu vas m'inspirer par les histoires que tu vas raconter. Et que tu me feras voir et nous feras voir toujours un peu plus haut et un peu plus loin. Merci beaucoup.
Merci à tous d'être ici. C'est un immense honneur pour moi de m'adresser à cette foule. C'est un immense honneur pour moi de retourner à mon alma mater. J'étais assise il y a très très longtemps dans un des sièges ici, parfois en haut, parfois essayant de fuir par la porte. Mais je me suis toujours dit que j'ai tenté de fuir McGill. D'une certaine façon, de temps en temps. J'ai fait mon cours ici, j'ai été pratiquée à Saint-Ours, et je finis toujours par revenir à McGill. Il y a quelque chose à McGill qui me ramène tout le temps. Alors, en syntonie avec vous, des étudiants de 5 universités, je vais tâcher de naviguer dans les deux langues en essayant de ne donner ni le roulis ni de mal de mer à personne. Je vais certainement faire... Mes diapositives sont en partie en anglais. Ma présentation va être surtout en français. Lorsqu'on m'a demandé de vous parler et de vous parler dans un sens de qu'est-ce que c'est la médecine familiale et qu'est-ce qu'il y a de si extraordinaire dans la médecine familiale, j'ai tout d'abord pensé à un titre que j'ai par la suite révisé. Vous l'avez vu apparaître dans vos documents, Médecine familiale et Cordélia. Cordélia étant la fille, la meilleure fille en fait, celle avec le plus de cœur du roi Lear. Et je m'étais dit, la médecine familiale est à la médecine ce que Cordélia est au roi Lear, mais je me suis dit, le roi Lear était un roi un peu fou. C'est pas tout à fait la place ici de faire cette analogie, donc j'ai changé mon titre et voilà. La médecine de famille entre le corps, le cœur et la tête ou la conscience. Une histoire globale et universelle, mais surtout, ce que je me propose de vous transmettre, c'est la notion de plaisir. Alors, en médecine, il y aura sans doute des gens, et il y a toujours, qui pendant 30, 40 ans, se sont spécialisés, ont eu énormément de plaisir à se spécialiser, et même à regarder dans un microscope pendant 30 ou 40 ans. C'est bien et c'est nécessaire. Mais il y a aussi des gens qui ont du plaisir à tout prendre, à s'ajuster à une réalité globale, à être inventif et prêt à tester leur capacité de contact. Je fais une petite pause ici pour vous dire que les conférences du Dr Levin et du Dr Bolduc, on ne s'était pas parlé du tout avant, ni l'un ni l'autre, mais c'est formidable comment il y a une cohérence entre ce que je vais raconter et ce qu'ils ont dit. Donc, faire face à des situations globales, exercer sa créativité, son flair, comme un détective. Plus loin, je vais parler de la médecine relationnelle, mais la pratique de la médecine est plus que juste la médecine relationnelle. Il faut avoir une passion pour la médecine familiale et la capacité de le faire. Certains sont doués, pas tous, et il y a de la place pour tous en médecine. Alors, en gardant le sens du plaisir à transmettre en médecine familiale, voici le plan de ma présentation. Je vais parler du corps qui est la somme des parties, en fait, qui est plus que la somme des parties dans le plaisir, la diversité et la liberté de choix, justement, dont vous parliez, Dr Levin. Je vais parler du cœur, qui est l'humanisme, l'universalité, la connaissance de soi et des soins de proximité. Et ce que j'ai appelé la tête ou la conscience, la source du nécessaire doute qui nous pousse à faire une recherche, une espèce de quête constante dont j'ai été moi-même partie prenante à un certain temps. Alors, on peut, ce qui est formidable, et Dr Bolduc en a parlé un peu, avoir tellement de choix, et je suis sûre que parmi d'entre vous, il y en a qui ont de la misère à faire des choix, j'en étais, j'en suis encore. J'ai beaucoup de difficultés à choisir entre plein de bonnes choses. Je vous raconte une petite histoire. Il y a très longtemps, dans un restaurant, il y avait un grand menu et tout était délicieux. Et je passais d'un repas, et j'arrivais pas à me décider. Il y avait un homme sage, assis à côté de moi, qui m'a dit, « T'as pas à décider, tu prends lui, puis lui, puis lui, jusqu'à temps que tu n'aies plus faim. » Alors voilà, c'est une petite recette pour ceux qui n'arrivent pas à décider, mais médecine familiale, ça nous donne ça aussi. Alors, là, quelques mots sur la diversité, en fait, la structure externe, et qu'est-ce que ça nous permet de faire. Je vais vous en dire quelques mots seulement. Comme on vous l'a dit, Myriam l'a bien dit, une de mes passions, c'est la pratique de l'obstétrique, dont je fais un peu moins maintenant, mais ça reste une grande passion pour moi. Mais on n'est pas vraiment tous obligés de faire de l'obstétrique. Il y a tellement de choix en médecine. La chirurgie mineure, petite histoire, je révèle quelque chose d'un peu personnel, mais cet été, nous étions en vacances tous en famille et l'un de mes gendres a eu un abcès à la peau qui était extraordinairement douloureux. Alors, j'ai fait un petit tour à l'hôpital régional, j'ai abordé le médecin qui était de garde là, je lui ai emprunté tout ce que ça prenait et j'ai réglé le problème. Je suis devenue un héros dans ma propre famille. Il paraît qu'il ne faut pas traiter les membres de sa famille, mais je vous dirais que c'était une petite incision très légère qui a vraiment rendu la vie très agréable à ce jeune homme qui était fort malheureux. Alors, psychiatrie, je vous en parlerai si j'ai le temps, peut-être plus tard. Urgence, j'ai fait de l'urgence à l'hôtel Dieu de Sorel. J'ai fait surtout de l'urgence au Nunavik. J'ai eu à faire une torsion testiculaire, en fait, à traiter une torsion testiculaire au téléphone avec le chirurgien urologue à Montréal en attendant le transfert du patient. J'ai eu à mettre des solutés. Et plus récemment, juste le week-end passé, j'ai assisté à une conférence extraordinaire qui est médecine d'urgence en région, qui est donnée par les Escoumins, en fait. Et ça m'a redonné le goût de l'urgence. Alors, comme je vous dis, je suis une boulimique et j'ai comme envie de remettre à l'urgence, mais il faut me retenir pour ça. L'obstétrique, je vous en parlerai plus longuement un petit peu plus tard. Je vous parle de la pédiatrie aussi, où j'ai eu, en Haïti en particulier, la possibilité de... Je vous raconte une petite histoire, en fait, qui est arrivée en Haïti. Alors, vous vous rappelez, c'est le séisme qui a lieu en janvier. Alors, on est avec mon amie Hélène dans un camp de réfugiés. Il y a un papa qui consulte avec son fils de 7 ans. Alors, le petit se salit tout le temps, en fait, de sel, et pourtant, il est constipé. Alors, il pue tout le temps, me dit le père, devant l'enfant qui reste silencieux. Alors, il y a un mot savant. Les médecins, on a vraiment des mots savants comme ça qui nous rassurent puis qui expliquent tout, encoprésie. Alors, je demande à l'homme, est-ce qu'il est arrivé quelque chose avant que tout ceci ne commence? Alors, je me demande aujourd'hui, est-ce que c'est moi ou le papa qui, le premier, prononce le mot « colère » ? Peu importe. Le père raconte qu'il y a quelques années, il a été très en colère car sa fille aînée s'est trouvée enceinte. Et lui fait un lien entre l'accouchement de cette fille et ce dont souffre le petit garçon depuis ce temps. Alors, je propose, le garçon a attrapé la colère de son père, de ses parents. C'est comme entrer en lui, comme un mauvais esprit, il faut peut-être l'en débarrasser. L'homme acquiesce immédiatement. Oui, c'est ce qui le rend malade. C'est bien ça qui le faisait déjà puer avant même l'événement, avant le séisme. Alors, comment se débarrasser de ce mauvais esprit? Je fais allusion aux guérisseurs, je sais qu'il y en a en Haïti. Aucune réticence. Je propose un laxatif léger en alliance à parler aux garçons de colère, si possible, consulter un guérisseur. Ai-je fait un métissage des approches? Étais-je ce qu'on appelle en Haïti un docteur feuille? Il y en a peut-être d'entre vous qui en ont entendu parler. Où est le charlatanisme? Je donnerais cher aujourd'hui pour savoir ce qui est en advenu de cet enfant et de son tourment. J'ai aussi eu à intervenir dans une salle de pédiatrie avec des tout petits bébés mourants. C'était une expérience plutôt difficile. Je vais passer à la prochaine diapo. Alors ça, c'est un exemple d'obstétrique. C'est une photo que j'ai prise d'un accouchement au Nunavik. Alors, la prochaine, c'est la question de la liberté de choisir. Donc, je vous racontais que je suis partie de McGill, je suis allée à Saint-Ours, dont je vais vous parler, je suis revenue à Côte-des-Neiges, je suis allée au Nunavik en Haïti. Et pour passer à la prochaine diapo, alors une petite photo d'Haïti, je vais faire un rewind dans ma vie professionnelle vers Saint-Ours, ce petit village où j'ai appris ce que j'appelle la médecine relationnelle. Alors, je vous raconte que c'est une série de circonstances, dont un chien, qui, après une certaine pratique en pédiatrie, parce que je cherchais un lieu où placer mon chien, m'a menée dans ce petit village où il y avait un fermier qui a bien accepté de prendre mon chien. Et j'ai vu la maison, je suis restée là, j'ai pratiqué pendant 10 à 12 ans. Alors, Saint-Ours, c'est un petit village d'à peu près 1500 habitants sur le rivage du Richelieu, à peu près à un petit peu plus qu'une heure de Montréal. L'occupation des gens là, c'est surtout de l'agriculture et il y a aussi une petite fonderie et ils travaillent beaucoup à Sorel. Et j'ai pratiqué là, en fait, en solo à l'époque parce qu'il n'y avait pas d'équipe. Mais j'ai appris à travailler en équipe avec les gens, justement. Il a fallu que je sache bien dans quoi les gens vivaient. Alors, une autre petite histoire pour vous dire un peu. Il y avait un système presque mythologique à un moment donné. Moi qui arrivais de McGill fraîchement graduée, il y avait une famille particulièrement accident prone, là, qui était portée aux accidents. Ça partait de génération en génération, c'était connu dans le village. Le grand-père avait malheureusement accidentellement écrasé un enfant avec sa charrue à neige. Le fils, lui, sa femme avait été frappée et écrasée par une voiture. Et ainsi de suite, ça n'en finissait plus. Alors, dans ce village, ça faisait partie de connaître le village et ça fait partie du plaisir d'être dans la médecine familiale et d'être le médecin de famille là. Quand il arrivait un accident, il y avait vraiment la question, à qui est-ce arrivé? Est-ce que c'est la famille X ou c'est, je vous dirais, qu'il y a des au Québec? Et c'est peut-être, je suis en train de faire un petit discours en faveur de la médecine en région et dans les villages, il y avait cette espèce de mythologie autour de cette famille. Alors, le travail d'équipe à Saint-Ours, je vous dirais, était essentiellement entre, bon, moi-même, le médecin de la place, le curé du village aussi, et l'école, le magasin général, la banque locale, et tout le monde, finalement, se connaissait, et quand quelqu'un entrait dans mon bureau, je vous assure, je n'avais pas vraiment besoin de faire une grande histoire. Je savais très bien qui était le parent de la personne ou le frère, et l'histoire familiale était là. Il fallait aussi que j'apprenne des concepts auxquels je n'étais pas habituée à McGill, je dois vous dire. Par exemple, puis vous qui êtes du Québec, je suis sûre que vous avez, et surtout maintenant que nous sommes dans la saison des bonnes tomates, si vous connaissez le concept d'acidité. Alors, les gens de Saint-Ours faisaient de l'acidité. Et pour moi, c'était un grand mystère, mais je dois dire qu'il y avait beaucoup d'explications qui reposaient sur ce terme-là, des rougeurs parce qu'il a mangé trop de tomates, des échauffements urinaires parce qu'il a mangé trop de tomates. Et c'était comme ça. Donc, j'ai fait de l'anthropologie en même temps et j'ai appris ce concept d'acidité. Alors, il y a une autre chose qui est arrivée, en anglais, il y a un beau terme qui est « self-reflexive medicine », à laquelle j'ai été forcée quand j'étais dans cette pratique à Saint-Ours. Alors, comme Myriam l'a dit, j'ai eu la plupart de mes enfants, en fait, à Saint-Ours. Il y en a une qui est née lorsque j'étais déjà à Montréal. Et je me suis rendu compte, chemin faisant, que j'avais d'abord peu de leviers pour traiter autre que médicalement des patients anxieux ou déprimés. Par la suite, je me suis rendu compte que moi-même, j'avais une tendance à être, je dirais, surprotectrice avec mes enfants, à vraiment m'énerver des fois pour pas grand-chose. Je suis donc allée me chercher une petite formation en psychothérapie qui m'a servi tant à un peu alléger mon poids que j'imposais à mes enfants, mais aussi dans ma pratique de tous les jours avec ma clientèle qui me sert encore aujourd'hui. J'ai des petites bases de psychothérapie dont je me sers et qui viennent de ce mouvement de self-reflexiveness. D'un coup sec, alors là je vais peut-être changer en anglais pour les anglophones ici, « I found myself at a crossroad again ». Tout simplement, ben, je reviens en français aussi, c'est plus fort que moi. Mes enfants avaient grandi et bon, la petite école de Saint-Ours ne suffisait plus. Alors, il fallait faire le choix pour mes pensionnats, tout ça. Bon, c'était hors de question. Donc, j'ai suivi mes enfants, j'ai fermé ma pratique. Ça m'a fendu le cœur. Je vous comprends tout à fait, Dr. Bolduc. C'est quelque chose de fermer sa pratique et de partir. Quand je retourne à Saint-Ours encore, j'ai l'impression que les gens m'attendent. Lorsque je vais au magasin m'acheter, je n'en sors pas sans avoir fait au moins quelques consultations dans l'allée des céréales ou l'allée des confitures. Par contre, le changement, le retour à Montréal a été tout à fait merveilleux parce que, quitte à changer, il faut changer complètement. Alors, je me suis retrouvée, un hasard, dans le quartier Côte-des-Neiges. Alors, imaginez un peu la différence entre Saint-Ours, qui est vraiment à 100%, parce qu'à l'époque, j'étais la seule née à l'étranger de ce village, 100% québécois pur laine, comme on disait à l'époque, et à Côte-des-Neiges où il y a 150 pays d'origine différents. Alors, pour changer, j'ai changé vraiment. La pratique a complètement varié. Et m'est devenu tout à fait clair que ce que j'ai appelé dans mes conférences « Issues of Culture and Social Factors », tout ce qui tourne autour de la culture et des données socio-économiques était extraordinairement important. Alors, dans Côte-des-Neiges, il faut être vraiment aveugle et sourd pour pas voir l'évidence que notre médecine est une sorte de culture à elle seule. C'est une façon de réfléchir l'univers et qu'elle n'est pas universelle. Et que ce qu'il y a dans la médecine des gens qui viennent d'ailleurs et qui nous enrichissent de leurs apports est complètement différente et est basée sur quelque chose de très, très différent de la nôtre de médecine. Pour finir, je vais aussi vous dire une petite chose, c'est que ce que j'appelle la médecine relationnelle, qui est un terme que j'ai emprunté à la consultation de Norbert Ben Saïd, un grand médecin français que certains d'entre vous connaissent peut-être, n'est pas à une voix. C'est-à-dire que il arrive que ce soit le patient qui guérit le médecin. Alors, je vous raconte une situation qui est arrivée il y a pas très longtemps, d'une patiente qui vient du Cameroun, que je suis depuis quelque temps pour de l'hypertension. Il y avait une journée qui a une histoire assez terrible. Elle a laissé 6 enfants au pays. Elle est ici en réfugié. Le mari est disparu. Et elle est ici vraiment en mode survie. Mais elle vient me voir régulièrement pour toutes sortes de choses. Cette journée-là, j'étais particulièrement en retard, particulièrement fatiguée probablement. Et lorsqu'elle s'est assise et qu'elle m'a dit, que je lui ai demandé « qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ?» et qu'elle m'a répondu « ah, docteur, j'ai mal partout ». J'ai senti manque de compassion, je dirais, et une espèce d'exaspération. Et j'ai eu la sagesse de prétendre avoir à aller faire un coup de téléphone à côté. Et je suis sortie, je suis allée me chercher un café. Et j'ai pris sur moi, comme on dit, et je suis retournée dans la salle. Et elle m'a accueillie avec cette phrase incroyable. Elle m'a dit, « Docteur, vous devez être tellement fatigué, vous en faites tellement pour tout le monde. » J'ai eu les larmes aux yeux et l'accès à la compassion était là directement. Je vous dirais que cette femme, ce jour-là, m'a guérie, moi, par ses qualités relationnelles. Je vais finir ma section sur la médecine relationnelle en vous disant qu'elle n'est pas exclusive à la médecine familiale. Alors, c'est pour ça que je vous disais, la médecine familiale, c'est plus que juste la médecine relationnelle. Je vous raconte une situation. En fait, c'est arrivé à une de mes filles, tout simplement, et qui a été soignée pour un problème de thyroïde il y a quelques années et qui a dû avoir une chirurgie, donc de la thyroïde, par ce chirurgien extraordinaire de l'hôpital juif, un ORL. Je me rappelle encore, nous étions autour du lit de ma fille qui venait d'être opérée, qui était en salle de réveil, souffrante, gémissant, elle ne parlait pas et tout. Arrive mon collègue chirurgien et avec son chapeau et habillé encore en salle d'opération, il s'approche, la regarde et il lui demande « How are you ?» Et elle lui dit, elle réussit à parler, elle lui dit « What did you do with my thyroid ?» Qu'avez-vous fait de ma thyroïde ? Et cet extraordinaire chirurgien la regarde et lui dit « Tu voulais l'enterrer ?» Did you want to bury it? Il avait réussi et le changement dans le visage de ma fille était extraordinaire. Elle s'est comme ressuscitée, elle s'est réveillée, le sourire radieux. Elle lui a dit oui, ils en ont parlé et ça a fini comme ça. Mais je vais vous dire que ce médecin avait des qualités relationnelles tout à fait exceptionnelles. Et c'est pour ça que je vous dis ça à tous vous, médecins de famille peut-être, mais médecins avant tout, la médecine relationnelle, c'est la base de la médecine. Mais c'est aussi ce qu'on enseigne et dont on fait de la recherche aussi. C'est peut-être ça qui est plus propre à la médecine familiale. On en fait un petit peu un peu notre drapeau. Et notre quête et nos recherches sont là-dessus. Alors, je passe à la troisième partie qui est justement la tête, la conscience et le doute. Je vais vous dire, le temps passe et je sais qu'on va me faire signe bientôt, mais je vous dirai que la recherche au service du patient, qui est autre chose que la recherche pour la recherche, c'est ce qui est passionnant en médecine familiale, en recherche. La réflexion et la co-construction comme base de l'interdisciplinaire. Je vous dirais que la théorie de la complexité me semble tout à fait appropriée pour tout ce qui tourne en recherche en médecine familiale. Je vous lis ici que « Family medicine research is most permeable to the complicated concepts of systems theory, requiring data about people, families, defense mechanisms, values, etc. » Je doute tout le temps. Et je vous dirais que c'est ce que je veux dire par la troisième partie qui est la recherche ou la conscience. Je n'ai jamais l'impression d'avoir une assurance. Par contre, j'en ai une. C'est un peu une assurance négative, je vous dirais, que les voies de la recherche sont multiples et que de dire qu'il y a une façon de la recherche, c'est une distorsion. Alors, c'est la seule certitude que j'ai pour la recherche. Et je vais vous citer pour finir cette partie-là. Dr. Ian McWhinney, c'est un grand médecin de famille qui a écrit, je pense, des livres fondateurs en médecine familiale, qui dit « I am convinced that no practitioner who makes systematic observations of his or her practice will fail to experience the joy of observing and recording the common events in one's own habitat, like the yearly unfolding of spring. » Quelques mots sur la médecine familiale et la recherche en médecine familiale à McGill. Nous avons maintenant un programme de maîtrise en médecine familiale à McGill. Nous avons aussi un programme de ce qu'on appelle le Clinician Researcher Program, qui est une troisième année subventionnée en médecine familiale avec de la formation en recherche. Et je vous dis deux mots sur des recherches qui m'ont mené finalement sur la partie finale de ma présentation qui est la Maison Bleue, des recherches que j'ai menées moi-même. Des recherches subventionnées en fait par le CRSH, deux étaient subventionnées par le CRSH, qui ont révélé, une s'appelait Immigration, Acculturation et Maternité, qui a démontré un très intéressant disconnect, je vous dirais, entre la prise en compte de la culture par les intervenants versus ce que les femmes immigrantes, elles, percevaient. En fait, le résultat était assez phénoménal, c'est que 80% des intervenants pensaient qu'elles avaient pris en compte la culture d'origine de la femme enceinte, et 82% des femmes ont dit « non, on ne m'a jamais parlé de ma culture ». Ce qui est formidable dans cette recherche, c'est qu'il n'y a personne qui ment là-dedans, c'est juste que le courant ne passe pas. Il y a quelque chose au sujet de la culture d'origine qui n'a pas passé entre les intervenants et les cliniciens. L'autre recherche, et ça tourne toujours autour de l'obstétrique, c'est la perception d'une naissance, naissance d'une perception, qui vient d'être publiée comme article dans Birth, et qui, pour moi, c'était intéressant de voir qu'il y a une culture de la peur dans tout ce qui tourne autour de l'obstétrique. Je dois vous dire aussi que je me suis intéressée à un peu l'inexplicable en médecine. Et nous avons soumis, nous n'avons pas été subventionnés, mais nous avons fait de nombreuses années de séminaires autour d'un sujet que nous avions appelé « Quand la réalité clinique interpelle le savoir médical ». Une recherche-action coopérative visant les changements épistémologiques par l'ouverture de la médecine aux autres formes de savoir. Et j'ose croire que votre génération d'étudiants en médecine va être probablement plus ouvert et de ce fait même beaucoup plus porté à la vraie scientificité que peut-être les gens de mon âge ou les gens qui ont été formés de mon temps. Juste vous dire aussi que la médecine est très forte en recherche fondamentale et à ces aristocrates de cette recherche, dont un grand chercheur qui est au Douglas, qui s'appelle Dr. Michael Meaney, qui a fait des recherches extraordinaires qui démontrent que l'environnement transforme l'ADN, carrément, transforme la génétique. Je vous dirais que s'il y a une chose qui a été pour moi l'impulsion pour démarrer la Maison Bleue, ça a été ces constatations-là qui sont phénoménales et qui sont tout à fait prouvées maintenant. Alors, je vous ai parlé d'inventivité au début, et je vous dirais que en fin de carrière, pour moi, là où j'ai cristallisé mon inventivité, grâce aussi à une équipe formidable, dont Dr Rousseau ici et trois autres médecins de famille, accoucheurs, qui étaient un petit peu découragés de faire juste l'accouchement correctement et de ne pas avoir vraiment d'impact sur la trajectoire de vie de l'enfant et de la mère après, dans les conditions très de vulnérabilité, on parle. Alors, c'est un peu ça qui nous a poussé avec une équipe d'une sage-femme, une travailleuse sociale, une infirmière, une éducatrice, à nous mettre ensemble et à dire, on va faire quelque chose, donc l'inventivité que c'est venu chercher en nous pour démarrer donc la Maison Bleue. Petite photo de la Maison Bleue. Vous verrez, je ne sais pas si vous voyez, ça c'est la brique, c'est la Maison Bleue originale. Tout ce qu'on voit un peu en blanc au bout, là, c'est tout à fait nouveau. On a agrandi la Maison Bleue, presque doublé. D'ailleurs, grâce à votre discrétionnaire, Dr Bolduc, merci beaucoup. Nous avons réussi à avoir un étage là-dessus. Et voilà, donc ça c'est... Je vous dis deux mots. La Maison Bleue est un projet hybride, dans tout le sens d'hybride, parce que vous allez voir, c'est un mélange d'OSBL et des services publics et de communautaires, qui arrive à intégrer sous un seul même toit des idées novatrices et des forces inspirées de projets distincts. On n'a pas inventé la roue, c'est juste qu'on a tout mis ensemble pour... C'est la force de l'addition des interventions, comme vous disiez hier au sujet des urgences, qui fait qu'on va finir par changer quelque chose. L'hypothèse, c'est que les actions concertées de ces projets vont avoir un effet positif sur les vies des femmes et des enfants dans des situations de vulnérabilité. Alors, la Maison Bleue, c'est un lieu où nous accueillons les femmes enceintes du quartier, donc souvent immigrantes réfugiées, avec des histoires de vie assez épouvantables, merci. Pour le moment, c'est beaucoup des immigrantes parce que nous sommes dans Côte-des-Neiges. Si nous étions ailleurs, ce serait d'autres vulnérabilités. Nous avons aussi des non-immigrantes, victimes de violences conjugales, ex-toxicomanie, souvent la direction de la protection de la jeunesse est impliquée dans les cas. Et nous prétendons, en équipe, que nous transformons les vies de ces gens-là. Alors, une petite photo qui vous montre l'infirmière pivot, justement, avec quelques-unes des mamans. Ah, alors, parlant de créativité, j'ai mis cette photo parce que je dirais que c'est là qu'on arrive à l'innovation la plus belle de la Maison Bleue. Nous avons été subventionnés pour un projet de recherche par le FQRSC, où nous avons prétendu qu'on pourrait explorer la notion de portage culturel. Qu'est-ce que ça veut dire d'être maman dans un pays où on n'est pas né? Mais qu'on pourrait l'explorer encore mieux par une pièce de théâtre qui aurait été écrite avec les mamans. Nous avons embauché une professionnelle de théâtre qui a écrit la pièce et qui a formé les mamans. Je vous dirais que toutes ces mamans-là viennent de 10 pays d'origine différentes, ont des histoires de vie épouvantables, je ne vous raconterai pas. Et imaginez la fierté de ces femmes et l'empowerment incroyable lorsque elles se sont produites en public devant une salle pleine de Québécois qui les ont applaudies debout. Alors, ces femmes-là, leurs vies sont transformées. Actuellement, il y en a plusieurs qui sont des ressources pour la Maison Bleue et qui aident d'autres femmes. On a recréé un village grâce à cela. Alors, je résume. Ici, ça le dit, la Maison Bleue est venue comme un résultat normal d'une pratique réflexive des professionnels qui étaient impliqués, qui sont les médecins de famille. L'une d'elles est Hélène qui est ici, la sage-femme qui est Isabelle Brabant, la travailleuse sociale, etc. Alors, ça c'est ce que je vous parlais du docteur Mini, c'est que le développement d'un individu est un processus d'adaptation qui se fait dans un contexte social et économique qui dépend des ressources et des interactions sociales. Alors, qu'est-ce qu'il y a de spécifique à la Maison Bleue? On met sous le même toit le psychosocial et le biologique, l'institutionnel et le communautaire, Et on met aussi le privé non lucratif. Là, on est une OSBL, donc il n'y a personne qui s'enrichit. Et le public. Donc, les services sont publics. Et ça, nous considérons que c'est vraiment un modèle très gagnant là-dedans. Je vous dirais que l'enthousiasme de travail dans cette Maison Bleue dépasse l'espérance. C'est quasi pas normal. Les gens ne comptent pas leur heure. Les travailleurs qui sont des travailleurs du CLSC là ne prennent pas de break, ne calculent pas leurs heures. Et il y a une passion là qui fait chaud au cœur et qui est, je crois, malgré la difficulté des situations qui sont vraiment des crèves-cœurs souvent, on est en équipe, on se supporte ensemble et on parle du plaisir d'être ensemble et on innove constamment ensemble. Nous prétendons être plus efficaces et plus efficients que le système lui-même. Nous avons suivi et accouché 326 femmes vulnérables. Nous avons 465 qui sont prises en charge, sans compter ceux que nous avons, le reste de la famille, que nous avons retourné dans le système parce que pas très vulnérables. On a 68 pays d'origine différents. Je vous passe quelques photos. Et pour terminer, je vous raconte juste, peut-être je vais vous lire, puisque j'ai, je crois, quelques minutes. Je vous lis deux histoires de la place. C'est pas la personne que vous voyez là. Une dame africaine qui arrive à Montréal enceinte, réfugiée, elle-même a subi ce qu'on appelle l'excision traditionnelle. Peut-être certains d'entre vous le savent de quoi je parle. Dans certains pays, il y a une ablation, en fait, des parties génitales de la femme externe. Elle a quitté son pays et s'est enfuie parce qu'elle savait que sa petite était un bébé-fille et qu'elle voulait la protéger de cela. Le mari est dans le pays d'origine. Alors, la dame Shannon est suivie à la Maison Bleue par le médecin et l'infirmière. Le suivi postnatal est fait. On lui trouve tout ce qu'il faut comme ressources matérielles. Je dois vous dire qu'il y a une pauvreté à Montréal dont on n'a aucune idée. J'ai eu l'occasion de faire une visite à domicile lors d'une tempête de neige parce que ma patiente était à veille d'accoucher. Il fallait que je l'examine. Elle n'était pas en travail, mais elle était à 39 semaines de grossesse. Et elle ne pouvait pas venir, il y avait grosse tempête. J'ai été la voir et cette maman, qui était sur le point d'avoir un bébé, dans son appartement, il n'y avait qu'un vieux matelas par terre. Il n'y avait rien d'autre et ça faisait 7 mois qu'elle était dans ces conditions-là. Alors, j'ai vu une pauvreté dont je ne me doutais même pas dans notre propre quartier, à Côte-des-Neiges même. La dame en question dont je vous raconte, finalement, a accouché, est devenue une ressource pour les autres. L'histoire se complique parce que le papa au pays ne peut pas la rejoindre et elle apprend en plus qu'il est engagé dans une autre relation. Il y a toute l'équipe psychosociale qui l'appuie, qui la supporte lors de cette difficulté. Et voilà, donc ça c'est une histoire de la Maison Bleue. Nous en avons des histoires comme ça dont je pourrais faire un autre livre. Un jour, j'espère que nous allons écrire un livre de la Maison Bleue. Nous avons des mamans qui arrivent dont les bébés sont des fruits de viol et que nous réussissons en fait à... Elle a décidé de le garder. De toute façon, elle arrive, elle est à 6 mois de grossesse. Nous accouchons le bébé est allaité, le bébé devient la prunelle de ses yeux. C'est bien sûr que cette maman a fait une dépression par la suite. Nous supportons la dépression et nous la traitons. C'est l'histoire du suivi et de porter finalement comme un village des grossesses qui sinon seraient tombées comme un caillou au fond de la mer avec tout ce qui s'ensuit de problèmes et de coûts pour notre système de santé. Je vais vous lire une dernière histoire et je vais la lire en anglais pour vous illustrer qu'est-ce que c'est que la pratique de l'obstétrique. A few years ago, I helped a Bangladeshi young woman deliver her first baby. Throughout her pregnancy, there was no communication, verbal or non-verbal, between her and me. She spoke nothing but her native language, and whenever I would question her, she would lower her eyes and look at her husband with her large black eyes, and he answered for her. Even during the physical examinations, there was never any visual contact between her and me. In hospital, during labor, all the time I was in the room with her, there was total silence, even during contractions. However, the moment I would step out of the room, she loudly demanded my presence, losing control of herself whenever I was out of sight. Her eyes were intensely focused on me throughout labor. I had to somewhat forcefully disengage my hands from her grip in order to deliver her baby. After the birth, I congratulated her for that great delivery. One last time, our eyes met, held each other. She smiled to me and said, "Thank you," in English. I left the room and went to fill out various forms, the computer and all that. When I came back one last time in the room, the young woman was looking at her husband, never looked back at me, avoiding my eyes. Later, I became the baby's doctor, inserted an IUD, removed it, followed her second pregnancy, delivered her second baby. In the meantime, I learned that in Bangladesh, a married woman never speaks directly to a stranger, man or woman, always must go through her husband for communication, except in emergency situations, for instance, during the delivery itself. But with her, the bond was wordless, established without talking, in silence. 3 weeks ago, when I wrote this, it was 2 weeks ago, but now it's 3 weeks ago, I delivered her third child. This story was to have a different twist to it. Just at the very end, I had an unjustifiable surge of anxiety. For reasons up till today unknown to me, I asked the nurse who was helping me to prepare a vacuum extractor, which is a tool to accelerate delivery. Suddenly, out of the blue, there were signs of fetal distress on the fetal monitor, shortly followed by a loss of detection of the fetal heart altogether. But everything was ready, close at hand. Without losing a second, we were able to apply the vacuum and quickly deliver a baby, which we had nevertheless to vigorously reanimate. We then figured out the reason for the near catastrophe, a tight, complete knot in the cord. Years had passed since the first delivery, but this time, before I left the room, my patient extended both arms towards me, thanked me profusely in English. At the door, I met her husband, wiping his eyes. I told this story to simply state that there is still so much necessary mystery and silence in the establishment of bonds between people for the passage of that magical current. And that in spite of everything I know and said, I am still at a loss as to why, how, and when the magic works or doesn't. Nevertheless, to feel, to experience this bond, the passage of this current that Dr. Bolduc was talking about, to look for why it was severed, which is research, this is what, to me, is to be a family doctor. Family medicine, by the choices it offers, the freedom, by explicitly acknowledging the role of the physician as healer through the relationship, is to me the most noble way to the practice of medicine. En commençant, j'évoquais la notion de plaisir et vous parlais du plaisir à tout prendre, à s'ajuster à une réalité globale, à être inventif et prêt à tester sa capacité de contact, à faire face à des situations globales. J'ai eu cette chance inouïe. La Maison Bleue a été et est notre façon de cristalliser des années d'expérience. Parmi vous, pour ceux qui sont prêts à tester cette inventivité, il y aura une multitude d'autres rêves à réaliser. Certains d'entre vous, en particulier, il y en a une couple ici que j'aimerais beaucoup voir en médecine familiale et si elles choisissent de ne pas y aller, je dirais sans rancune, what a waste of talent. Alors, en terminant, je vais vous laisser avec une citation de Dr. Norbert Ben Saïd qui parle du plaisir. Si je n'avais pas de plaisir à soigner Madame O, à l'écouter, à m'entretenir avec elle, si mon métier consistait à prescrire des médicaments ou des examens, à distribuer des adresses de spécialistes ou de services hospitaliers, je suis convaincue que mes patients n'en tireraient pas grand profit. Le plaisir auquel nous tenons tant n'est pas égoïste et coupable. Le bien que nous pouvons faire dépend plus de lui que de nos beaux sentiments. Nous en priver serait bien imprudent, fût-ce au nom de bons principes, moraux ou politiques. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui et je vous remercie beaucoup, beaucoup de m'avoir invité.
Donc, merci, Dr. Jimenez. Thank you, Dr. Jimenez. There are people who work for resources in a community, and there are people who literally are a resource to their community. I would like to thank as well Minister Yves Bolduc, Dean Richard Levin, and Dr. Boilard for being here. As well, je veux remercier tous les participants aujourd'hui. Il y a quelques points qui restent juste à discuter. Pour les ateliers, les conférences qui sont commencées à 3h, pour les conférences, ça va commencer à 3h. Pour les ateliers, on va attendre jusqu'à 3h15 pour commencer. L'atelier de Wilderness Medicine, ça départ d'ici, à McIntyre, pas au centre de simulation. Donc, vous trouvez ici au 5e étage pour Wilderness Medicine. En termes des activités qui restent, il y a toujours les kiosques aussi qui sont disponibles sur le 6e et 5e étage. On vous invite aussi de retourner ici au McIntyre pour 4h pour le tapas et vin pour tous les participants. Puis on se revoit dans une année à l'Université de Sherbrooke. Merci.